Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia, bonjour. La ministre française des Armées, Florence Parly, a souligné jeudi à Bamako la détermination de la France et de ses partenaires à continuer le combat contre le terrorisme. Elle a rejeté à nouveau des accusations de bavure lors d'une frappe controversée en janvier dans le centre du Mali. Nous aurons notre correspondant Mohamed Danioko en seconde partie de cette édition. Plus d'une semaine après l'attaque djihadiste dans le nord-est du Mozambique, qui a coûté la vie à des dizaines de civils, policiers et militaires à Palma, les opérations d'évacuation de milliers de rescapés se poursuivaient jeudi. L'armée mozambicaine a lancé mercredi une offensive pour tenter de reprendre Palma aux mains des rebelles depuis samedi. En Algérie, la justice a réclamé jeudi l'application de la loi, soit une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, contre un islamologue de renom, le chercheur Saïd Diabelkir, accusé d'offense aux préceptes de l'islam, selon un de ses avocats. En République démocratique du Congo, les dépenses de la présidence et des services du Premier ministre plombent les maigres finances du pays, sans gouvernement depuis plusieurs semaines, a dénoncé jeudi une ONG de contrôle citoyen des finances publiques. Eddy Issango nous donnera les détails. Le ministre malgache de la Santé a annoncé jeudi que ce pays avait rejoint le mécanisme COVAX d'aide aux nations défavorisées, faisant suite à une promesse récente de déployer des vaccins contre le COVID-19 après des mois de résistance du président Ange Rajoel. Son gouvernement n'en abandonne pas pour autant le remède local à base de plantes vanté depuis des mois par le président malgache. Le pays est entré dans une seconde vague de la pandémie avec la présence du variant sud-africain réputé plus contagieux. La situation du COVID-19 s'y aggrave à Madagascar avec des dizaines de décès par jour. Pfizer BioNTech a affirmé jeudi que son vaccin conserver une efficacité très élevée contre le variant sud-africain, citant des conclusions d'essais cliniques menés en Afrique du Sud. L'OMS a dénoncé jeudi la lenteur de la vaccination en Europe, jugeant la situation épidémique particulièrement inquiétante sur ce continent où plusieurs pays ont dû durcir leurs mesures sanitaires, à l'instar de la France. L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, détenue depuis le coup d'État militaire du 1er février, a été accusé jeudi d'avoir violé une loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale au lendemain d'une mise en garde de l'ONU contre un risque de bain de sang imminent en Birmanie. Et dans une déclaration unanime jeudi, largement édulcorée par la Chine lors d'une négociation difficile qui a duré 2 jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement les morts de centaines de civils, incluant des femmes et des enfants, en Birmanie. Des représentants de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Iran se réunissent ce vendredi par visioconférence pour discuter d'un possible retour des États-Unis dans l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, selon l'Union européenne. Le gouvernement du président Joe Biden reçoit ce vendredi des émissaires du Japon et de Corée du Sud pour un dialogue trilatéral à l'issue duquel il mettra la dernière main à sa stratégie face à la Corée du Nord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi la Russie d'accumuler des troupes à la frontière de son pays, Washington mettant en garde Moscou contre toute tentative d'intimidation visant l'Ukraine. Au moins 36 personnes seraient décédées dans le déraillement d'un train bondé vendredi à l'est de Taïwan, a annoncé la police ferroviaire. 72 personnes sont toujours coincées dans les wagons et 61 transportées à l'hôpital. Le premier ambulancier arrivé pour secourir l'Africain-Américain George Floyd a raconté jeudi devant le tribunal de Minneapolis l'avoir trouvé mort avec plusieurs policiers sur lui au 4e jour du procès pour meurtre du policier blanc.
La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, les dépenses de la présidence et des services du Premier ministre plombent les finances du pays. C'est ce que dénonce l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, une ONG de contrôle citoyen des finances publiques. Des dépenses qui ont lieu alors que la RDC est sans gouvernement depuis plusieurs semaines. Les explications d'Eddie Isango.
L'ODEP dénonce un dépassement des dépenses de 113% à la présidence de la République démocratique du Congo, soit 29,2 millions de dollars dépensés durant les deux premiers mois de l'année. L'ONG l'impute principalement à la prise en charge de 1081 conseillers. L'ODEP tire aussi la sonnette d'alarme sur les dépenses pour l'entretien des membres du gouvernement. Le pays prend soin de deux premiers ministres en ce moment, les sortants Ilunga Ilunkamba qui continuent à assurer les affaires courantes pendant que les nouveaux, le jeune Samalou Kondé, s'affaire laborieusement à mettre sur pied une équipe depuis plus de deux mois. Il doit gérer les mésententes au sein de la nouvelle coalition, l'Union Sacrée, née à la suite du divorce Cash-FCC. Déjà 4,5 millions de dollars ont été dépensés en deux mois. Un paiement pour rien, dénonce l'ONG. Et quatre mois se sont écoulés sans un conseil des ministres. L'ODEP estime qu'avec ces tableaux sombres, la RDC ne peut prétendre mobiliser plus de 3,5 milliards de dollars des recettes fiscales cette année. Le budget prévu de l'État pour 2021 est de 7,1 milliards de dollars. Le malheur est que 2,5 milliards de dollars des recettes fiscales seront utilisées pour les rémunérations comme en 2020, ajoute l'ODEP.
Ici aux États-Unis, le procès du meurtre de George Floyd se poursuit dans la ville de Minneapolis. L'avocat du policier Derek Chauvin, accusé de meurtre, a interrogé hier longuement la petite amie de Floyd sur leur consommation d'opiacés. Abdulrahman Dia.
Après trois jours de témoignages accablants pour l'agent de police, son avocat Eric Nelson a adopté une posture plus offensive face à Courtney Ross, une femme de 45 ans qui a entretenu une relation intime avec George Floyd de 2017 à sa mort l'an dernier. Très émue, cette mère de deux enfants avait dépeint un homme plein d'énergie, doux, avec qui la vie était une aventure. Quant à leur usage de drogue, c'est une histoire classique de gens qui deviennent dépendants aux opiacés parce qu'ils souffrent de douleurs chroniques. « Moi, c'était au cou, lui au dos », avait-elle simplement expliqué au procureur. La défense essaye de prouver que le policier n'a pas causé la mort de George Floyd, mais que l'Afro-Américain de 46 ans a succombé à une overdose de fentanyl combinée à des problèmes de santé. La stratégie de Maître Nelson a suscité le courroux de la famille Floyd qui a dénoncé, je cite, « une tactique facile quand les faits sont contre vous ». Remis en liberté, l'ex-policier Derek Chauvin comparaît libre mais n'a pas encore pris la parole. Son procès doit durer jusqu'à la fin avril et le verdict sera rendu dans la foulée. Ses trois ex-collègues seront jugés en août pour complicité de meurtre.
Explosion de cas de COVID-19 en Turquie. Le pays a enregistré hier plus de 40 000 cas en 24 heures, son bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les détails avec Mohamedou Humfa.
Selon le ministre turc de la Santé, 40 806 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures et 176 personnes en sont décédées. Le nombre de cas quotidiens ne cesse de grimper depuis que la Turquie a assoupli début mars une série de restrictions qui étaient en vigueur pour endiguer la propagation de la pandémie. Les autorités ont notamment permis la réouverture des restaurants et raccourci le couvre-feu imposé le week-end. Face à la nouvelle flambée des cas, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi le rétablissement des restrictions dans les villes les plus touchées, dont les deux grandes métropoles du pays, Istanbul et la capitale Ankara. Les autorités comptent aussi sur la vaccination pour maîtriser la situation. À ce jour, 9,3 millions de Turcs ont reçu la première dose du vaccin chinois CoronaVac et 6,9 millions les deux doses nécessaires. Dans les prochains jours, 2,8 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech sont attendues pour immuniser la population.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Mali, les producteurs de coton percevront pour la campagne 2021-2022 un prix d'achat bord champ de 280 francs CFA par kilo. Ce prix enregistre une hausse de 80% par rapport à celui annoncé lors de la session précédente. Par ailleurs, le gouvernement de Bamako maintient la subvention du prix des engrais à 11 500 francs CFA pour le sac de 50 kg. Le coton contribue à 15% au PIB du Mali et représente jusqu'à 45% de ses recettes d'exportation. La société sénégalaise Elton Group veut investir environ 70 milliards de francs CFA pour une structure capable de fournir de nombreux services gaziers au port autonome de Dakar. Une fois la construction achevée, ce port sera le premier en Afrique à accueillir des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Avec une capacité de stockage de 140 000 mètres cubes, l'infrastructure alimentera aussi les pays voisins, renforcera la chaîne de valeur du gaz domestique et générera des emplois. Terminons par les pays producteurs de pétrole de l'OPEP qui ont décidé hier d'alléger progressivement leur coupe de production d'or noir à compter du mois de mai face à une reprise soutenue par les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et les politiques de relance dans les économies clés. Les pays concernés augmenteront collectivement leur niveau actuel de production de 350 000 barils par jour de mai en juin et de 450 000 barils par jour en juillet.
Merci Nanit et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Démarrage demain samedi du championnat de football de première division au Togo. Après un an de suspension, pour cette reprise dans un contexte pandémique, des mesures particulières ont été prises par les autorités sportives du pays qui imposent un nouveau format à la compétition. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Dans un communiqué, la FTF, Fédération Togolaise de Football, informe que ce championnat est organisé en deux poules de 8 équipes pour limiter les contacts. À l'issue des matchs de poule en aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les play-offs qui se joueront sous la forme d'un mini-tournoi à 4. La FTF indique que les derniers de chaque groupe seront relégués en division inférieure. Elle rappelle que ce championnat est prévu pour durer 3 mois. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, les matchs se joueront à huis clos sans spectateurs. Les tests PCR sont exigés avant chaque rencontre pour les joueurs, le staff technique et les dirigeants qui seront présents sur le terrain. La reprise de ce championnat de football est un gros challenge pour le Togo, à un moment où le pays enregistre quotidiennement plus de 100 nouveaux cas de COVID-19. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le tirage au sort de la CAN 2021 aura lieu le 25 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. 23 des 24 qualifiés sont connus en attendant le match à Sierra Leone-Bénin qui se jouera début juin. La CAF a précisé que la phase finale de la CAN se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Pour rappel, la compétition devait se tenir cette année, mais a été reportée à cause de la pandémie de COVID-19. Décidément, les Béninois ne lâchent pas prise. Rentrés à Cotonou, après le report du match décisif de la 6e et dernière journée des éliminatoires contre la Sierra Leone, les 5 écureuils censés être contaminés par le coronavirus, Saturnin Alagbe, Khaled Adenon, Steve Mounier, Jodel Dossou et Cédric Untoji ont fait un test rapide de COVID-19 qui s'est avéré négatif selon eux et qu'ils ont exhibé sur les réseaux sociaux. La Sierra Leone dit avoir fait appel de la décision de la CAF de reporter le match, demandant une défaite des écureuils sur tapis vert, ce qui validerait leur qualification dans la mesure où les Béninois ont refusé de disputer la rencontre sans leurs 5 joueurs supposés positifs au COVID-19.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La ministre française des Armées, Florence Parly, a souligné ce jeudi à Bamako la détermination de la France et de ses partenaires à continuer le combat contre le terrorisme et à rejeter à nouveau des accusations de bavure lors d'une frappe controversée en janvier dans le centre du Mali. De Bamako, notre correspondant Mohamed Danyoko.
Cette visite intervient après la publication du rapport de l'ONU qui met en cause la force française Barkhane dans la mort de 19 civils au Mali. L'incident en question a eu lieu le 3 janvier lors d'une frappe aérienne des forces françaises à Bounti, une localité du centre du pays. Vu la gravité des accusations onusiennes, Paris a dépêché à Bamako son ministre en charge des armées, Florence Parly. Concernant les conclusions du rapport de l'ONU, qui épingle la force Barkhane, Florence Parly conteste tout en reprenant mot pour mot le contenu du communiqué publié par son département quelques heures après la publication du rapport.
Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Je rappelle qu'il n'y a eu ni femmes ni enfants parmi ses victimes et que cette frappe était destinée et à neutraliser des éléments terroristes.
La ministre Parly est accompagnée de ses homologues de la République tchèque et de l'Estonie. La délégation qui a eu une séance de travail avec le président de la transition a réaffirmé à sa sortie d'audience l'engagement des forces internationales à être aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Florence Parly, ministre des Armées de la France.
Aujourd'hui, notre message est simple. Les Européens se tiennent aux côtés des Maliens. L'ensemble des forces en présence, la force conjointe G5 Sahel, Barkhane, Takuba, EUTM et MINUSMA, ont un seul objectif. Affaiblir et défaire la menace terroriste qui est portée par Daesh et Al-Qaïda contre nos sociétés.
Après la rencontre avec le président de la transition, la délégation s'est rendue à Gao pour rencontrer les éléments de la task force Takuba pour, selon Florence Parly, renouveler la confiance de leurs États et les encourager à continuer sans relâche la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces armées maliennes. Mohamed Danyoko, Bamako, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, 7 partis politiques de l'opposition ont créé hier une plateforme visant à proposer une réforme du système électoral camerounais. La plateforme entend élaguer les nombreux désaccords, les dispositions obsolètes, les contradictions et vides juridiques contenu dans le code électoral actuel. Les figures de proue de l'opposition comme Maurice Kamto, Joshua Ossi ou encore Cabral Libi sont engagés dans cette démarche. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
La plateforme est née à l'issue d'une concertation qui s'est tenue mercredi et a été sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint, lequel a fait l'objet d'une conférence de presse au siège de l'Union démocratique du Cameroun, dirigée par Patricia Ndamdjoya, maire de Foumban, dans la région de l'Ouest. Les 7 signataires s'engagent à travailler ensemble pour mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité du Cameroun. Pierre Kouemou, président de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes.
Nous avons ouvert un secrétariat technique pour recueillir ces manquements à notre niveau. Chacun peut déjà avoir quelque chose. Mais on ne peut pas déjà clôturer ces manquements. Nous avons rendez-vous après le 15.
D'après le communiqué final, un secrétariat technique est chargé de recevoir les contributions des autres partis politiques, des organisations ou personnalités de la société civile jusqu'au 15 avril prochain. Le président du MRC, Maurice Kamto, a également apposé sa signature au bas du document. mais n'a pas souhaité s'exprimer au cours de la conférence de presse, laissant le soin aux autres présidents de partis politiques signataires de se prononcer.
Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de cette démarche.
Cabral Libi, président du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Ce groupe de travail s'est réuni, a produit un résultat. Nous venons de le livrer. Ce groupe de travail va continuer à travailler, va produire un résultat. Et chaque fois qu'il y aura un résultat, ce groupe de travail vous le donnera.
Au Cameroun, les acteurs politiques de l'opposition ont rarement pu mener un front commun. Pour la cause actuelle, la présidente de l'UDC, Patricia Ndamdjeya, espère une nouvelle donne contre cette mauvaise réputation.
C'est la première fois que des partis politiques se retrouvent pour viser un objectif national. Et à la fin, nous allons avoir un code électoral qui pourra permettre aux Camerounais d'aller aux élections le torse bombé.
Le sous-préfet du premier arrondissement de Yaoundé et les forces de maintien de l'ordre ont voulu interdire la conférence de presse des 7 leaders de l'opposition, allant jusqu'à exiger que les personnes autres que les militants de l'UDC quittent le siège du parti. Ce que Patricia Ndamdjeya n'a pas concédé. Au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, l'opposant Maurice Kamto et plusieurs militants de son parti, le MRC, avaient été interpellés pour avoir participé aux marches demandant la réforme consensuelle du code électoral. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Béninois se rendent aux urnes le 11 avril. Le président Patrice Talon, qui brigue un second mandat, fera face à deux candidats très peu connus de la scène politique. L'opposition dénonce l'exclusion de ses principaux candidats, mettant en cause le système de parrainage. Koumi Koutché, ancien ministre des Finances de l'ex-président Boni Yayi, dénonce ce qu'il a qualifié de recul démocratique dans son pays. Abdourahman Dia a joint Koumi Koutché qui vit en exil ici aux États-Unis.
Il y a simplement que le président Patrice Talon, qui a été élu démocratiquement par le peuple béninois, a choisi de mettre de côté l'arsenal institutionnel républicain et de mettre en place son propre agenda privé. Et c'est cet agenda privé qui est en train de conduire. Le 11 avril prochain, il n'y a pas d'élection au Bénin. Il y a juste que Patrice Talon est en train de conduire son propre agenda privé.
Alors vous-même, vous étiez ministre des Finances de l'ancien président Boni Yayi et vous étiez un des ténors de son régime. Vous prépariez à être candidat vous-même?
Absolument, absolument. Dans le Bénin démocratique normal qui était bâti depuis 1990, nous avons l'habitude d'aller à des élections ouvertes et le peuple choisit le meilleur. Il s'est fait que depuis 2016, de façon méthodique, l'environnement présidentiel, électoral et compétitif a été totalement vissé. D'abord à travers la mise en exil par des montages aussi grotesques les uns que les autres de toutes les principales figures de l'opposition, dont je fais partie moi-même. Et c'est par la suite que le comble est arrivé avec l'instauration d'un parlement monocolore qui a conduit bien évidemment à la mise en place d'une loi sur le parrainage.
Alors, avez-vous des nouvelles de Rekia Madougou, qui a été candidate du Parti Les Démocrates et qui a été arrêtée en début mars?
Rekia Madougou est un otage. Et vous savez, quand un otage est dans les mains de ses geôliers, quelles nouvelles vous pouvez avoir? Elle est même empêchée de recevoir des visites des plus proches, dont sa maman. Et donc aujourd'hui, le sort de Rekia Madougou est totalement dans les mains de celui qui, depuis 2016, fait du Bénin sa propriété privée et qui tient tout le monde par la corruption et la force et qui cherche à neutraliser tous ceux qui lui tiennent tête et dont Rekia Madougou fait partie.
Il y a quand même l'ambassadrice des États-Unis au Bénin qui a lancé un appel au dialogue, non?
Oui, tout le monde veut le dialogue. Et même nous, dans le combat que nous faisons, nous n'avons de cesse de crier au dialogue, puisque la paix ne peut exister que lorsque les enfants d'un même pays se parlent entre eux. Que l'ambassadrice des États-Unis appelle au dialogue, c'est la chose la plus normale qui soit. Mais que l'ambassadrice des États-Unis appelle au dialogue après les élections qui sont en cours, qui n'en sont véritablement pas une, il y a deux conséquences à une telle position. La première conséquence, c'est que cette position valide l'exclusion, ce qui est littéralement contre la politique américaine en matière de promotion de la démocratie dans le monde, et particulièrement la politique de l'actuel chef de l'État, le président Joe Biden. La deuxième conséquence, c'est comme si l'ambassadrice des États-Unis nomme déjà naturellement le président Patrice Talon.
Joint ici aux États-Unis, où il vit en exil, Kumi Kutché, ancien ministre des Finances du Bénin.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Cour pénale internationale a confirmé cette semaine l'acquittement prononcé en 2019 de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et un de ses proches, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. M. Gbagbo pourrait peut-être rentrer dans son pays après une décennie d'absence. Yacouba Ouédraogo a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Conan.
Oui, il a envie de rentrer, il l'a dit. J'ai pris le mois de décembre à instruire ses proches en référence à toi à Dou, hein, pour entrer en contact avec les autorités ivoiriennes de son retour. Mais ce retour est conditionné par deux choses. La première, c'est justement au niveau de la justice qui l'a condamné à 20 ans de prison. Et puis la deuxième chose, c'est la volonté politique du président Alassane Ouattara lui-même, parce que si Laurent Gbagbo doit rentrer, ce sera parce que peut-être qu'il aura pris une décision d'amnistie.
On le sait, le pouvoir d'Abidjan est dans un processus de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Il y a même un ministère de la réconciliation qui est créé, qui est dirigé par un opposant, Kwadio Kona Bertin. Est-ce qu'il faut s'attendre que ce processus de réconciliation en cours facilite les choses pour Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo?
Oui, je pense. Il ne faut pas se leurrer. Actuellement, la Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation. Il y a une volonté exprimée de la part du pouvoir RHDP de tourner un peu la page de toutes ces violences, de toutes ces frustrations, de toutes ces tensions, on va dire, politiques de ces dernières années. Et je pense que dans le cadre donc de cette volonté de décrétisation, et le président Alassane Ouattara devrait faire droit à la volonté du président Laurent Gbagbo de rentrer, parce que la constitution ivoirienne elle-même ne permet pas, n'autorise pas l'apatridie. Il est écrit noir sur blanc dans la constitution ivoirienne qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. C'est constitutionnel. Donc c'est un droit constitutionnel pour Laurent Gbagbo, était acquitté, de rentrer dans son pays.
Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo étaient poursuivis dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011. 3000 morts. Finalement, ces deux acquittés, personne n'est responsable.
C'est la grande question. Qui sont les auteurs des massacres qui ont touché au moins 3000 personnes? Voilà. Il y a eu un seul procès dans le cadre de la crise post-électorale, c'est celui de Simon Gbagbo, qui a été bâclé. Alors, la justice ivoirienne a mené des enquêtes. Il y a eu une commission qui avait été mise en place. Aujourd'hui, il y a un procès, un seul, Amadé Ouréni, chef de milice burkinabé, qui a sévi au Mont Péco, dans le centre-ouest, notamment cité dans les massacres présumés de Diokoué. C'est le seul procès qu'on connaît, la seule personne qu'on connaît. Il y a eu 3000 morts. Et Amadé Ouréni, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, n'a pas franchi les frontières de Diokoué qui se trouvent au centre-ouest, tandis qu'il y a une bonne concentration de morts principalement à Abidjan. Qui sont les auteurs de ces morts? Jusque-là, la justice ivoirienne n'a pas encore répondu à cette question.
C'était d'Abidjan l'analyste politique André Silver Conan.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seguldia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.